Bonjour Mathieu, rebonjour, vous êtes là.
Bonjour. Oui Bruno.
Bon, aujourd'hui, alors on attend les messages des auditeurs de France Inter, évidemment au standard, et les questions au 01 45 24 7000 autour d'un sujet passionnant. Ces personnes qu'on appelle les patients zéro, qui sont à l'origine des épidémies comme celles que nous vivons actuellement, Mathieu.
Oui Bruno, avec ce terme qui émerge dans les années 80 avec l'épidémie de sida, à cette époque le patient zéro avait le visage de Gaëtan Dugas, un steward québécois de Air Canada. Ce jeune homme homosexuel a voyagé beaucoup et pendant 30 ans, il a été considéré comme la première personne supposée être à la source de l'infection autour de New York. Sauf qu'en 2016, une nouvelle étude génétique a remis cette affirmation en question avec l'analyse de souches virales présentes dans des échantillons sanguins collectés en 1978 et 79 chez des homosexuels à New York et San Francisco. Le scientifique à l'origine de cette étude s'est aperçu que l'épidémie américaine remontait donc en réalité aux années 70. Des études suggèrent même que la contamination humaine aurait pu débuter dans les années 1930 en Afrique. Gaëtan Dugas, en tout cas, qui était devenu l'image de l'épidémie, n'était donc pas le patient zéro. Ce qui montre d'ailleurs, Bruno, qu'il faut bien faire attention à ne pas prendre ces personnes pour des boucs émissaires, car les recherches ultérieures peuvent toujours faire remonter plus loin dans le temps et dans l'espace.
Alors qu'est-ce qu'on désigne précisément avec ce terme patient zéro et pourquoi est-ce que c'est important de l'identifier ?
Alors en infectiologie, on appelle cas index ou patient zéro, donc la personne qui est considérée comme étant à l'origine d'une épidémie. C'est grâce aux enquêtes microbiologiques et virales de plus en plus précises que l'on peut remonter jusqu'à elle. Cette recherche du patient zéro est importante parce qu'elle vise à décomposer les chaînes de transmission de la maladie pour étudier la dynamique de l'épidémie, la virulence du virus et les possibles mutations en cours de route. Donc c'est une véritable course contre la montre pour trouver l'individu par lequel tout a commencé et qui, sans le savoir, est devenue une véritable bombe virale ambulante. En Chine, les pistes ont fait remonter à plusieurs personnes, dont une marchande de fruits de mer de 57 ans qui travaillait sur le marché de Wuhan, et un homme originaire de la même région qui a contracté dès la mi-novembre une pneumonie atypique. Concernant la France, Bruno, eh bien, le patient zéro du Covid-19 n'a pas encore été trouvé, mais son identification semble se préciser, comme le racontent les journalistes Raphaël Baquet et Ariane Chemin, qui ont eu accès à l'enquête épidémiologique qui remonte donc la chaîne de contamination dans l'Oise, où les premiers cas sont apparus. Le mystérieux patient zéro serait une personne donc, du département qui permettrait de remonter avant les trois premiers malades chinois officiellement recensés en France le 24 janvier.
On en parle avec vous, Luc Perrineau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes médecin clinicien épidémiologiste, vous venez de publier, alors par le plus grand des hasards, ce livre important, Patient Zéro, publié aux éditions de La Découverte. On attend vos questions, les auditeurs de France Inter, au 01 45 24 7000. Il y a déjà Jacques, bonjour Jacques.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, à partir du moment où j'ai entendu la recherche du patient zéro, il y a une question qui m'a immédiatement passé à l'esprit. À partir du moment où l'on admet qu'une personne puisse être porteur du virus et ne pas être malade, je ne vois pas très bien comment on pourrait trouver le premier porteur qui a introduit le virus en France.
Alors Luc Perrineau, qu'est-ce qu'on peut répondre à Jacques ? Voilà. Effectivement, excellente question.
Bah, la réponse est très simple. Si c'est un porteur sain, donc comme dit ce monsieur, oui, il est tout à fait impossible de le trouver. Il n'y a pas de doute possible. On ne peut trouver que le premier porteur malade, hein, parce que chez lui, on va faire des tests. Chez un porteur sain, on ne peut pas savoir qui a pu amener le virus, évidemment.
On peut travailler aussi sur l'entourage du premier porteur malade et éventuellement avoir des hypothèses sur son entourage, non ?
Voilà. Donc là, on est dans une enquête plus, j'allais dire, policière ou épidémiologique que virologique. Oui. On essaye de remonter le cours de la maladie dans le temps, donc c'est ce que l'on fait, c'est ce que l'on fait généralement pour un pays ou un foyer secondaire. Si on parle de la France, on va sans doute remonter au premier vrai malade français, on va y arriver. Mais celui qui est le plus important à trouver, en fait, c'est le premier patient chez lequel s'est produit une mutation qui a permis la transmission interhumaine. C'est le cas de toutes les dernières émergences virales. On recherche ce patient-là.
Mathieu Vidard, question.
Oui, Luc Perrineau, c'est tout l'objet d'ailleurs de l'article du Monde, hein, publié hier sur la piste du patient zéro en France, qui montre toute la complexité avec précisément les personnes asymptomatiques ou porteurs sains. Le virus donc peut être ultra contagieux, mais la maladie restait discrète, et ça complexifie l'identification de ce patient.
Ah ben dans le cas présent, où on a donc une maladie qui a d'abord, dans un premier temps, qui avait les apparences d'une grippe, et puis où il y a effectivement beaucoup de porteurs sains, c'est ce que l'on découvre, c'est sûr que l'enquête est beaucoup plus difficile que lorsqu'il s'agit d'une maladie très visible, hein, comme la variole ou le choléra, c'est évident. Hein, l'enquête du patient, de la recherche du patient zéro est très difficile dans ce cas-là.
Éloi au standard de France Inter. Bonjour Éloi.
Bonjour.
Vous nous appelez de Saint-Félicien.
Oui, c'est ça, en Ardèche.
Nous vous écoutons.
Alors moi, ce serait au niveau de la protection des données personnelles, ouais. Parce que dans un état de droit comme la France, comment garantir cette protection tout en recherchant le patient zéro, et est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'avoir des boucs émissaires, tout simplement?
Est-ce qu'il peut y avoir, Luc Perrineau, une contradiction entre une enquête épidémiologiste et un respect des libertés, des secrets médicaux? Est-ce que ça peut freiner le travail sur le patient zéro?
Alors, pour redire un peu ce que je viens de dire, quand on cherche le patient zéro dans un foyer secondaire, donc ouais. On va considérer que la France est un foyer secondaire, ou dans une région secondaire, c'est vrai que quand on recherche le patient zéro, je trouve que l'intérêt de la recherche fondamentale ou médicale est moins important, et effectivement il y a un risque de dérapage vers celui qui n'a pas respecté la règle, celui qui s'est dissimulé, et ça je trouve que c'est un peu désolant et un peu dangereux. Je pense que la seule recherche fondamentale qui mérite, c'est la recherche donc génétique ou virologique, c'est la même chose, hein. On cherche le génome du virus, et d'essayer de remonter vraiment à l'origine, et ça c'est un peu plus difficile, mais on y arrive quand même. Pour le premier SRAS, on est remonté jusqu'à Foshan, ça n'est pas à Hong Kong que ça s'est passé, comme on le sait, mais ça s'est passé avant. Comme l'a dit Mathieu Vidard tout à l'heure, pour le sida, on est remonté jusqu'en 1920, qui est chez un braconnier, probablement, qui aurait été blessé par un gorille ou un chimpanzé dans la forêt congolaise. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir quels sont les vrais dangers, les vrais risques ultérieurs de contact avec un virus inconnu.
Mathieu.
Oui, justement, Luc Perrineau, dans le cas de la France, quel est aujourd'hui l'intérêt finalement de connaître le patient zéro alors qu'il a pratiquement été identifié en Chine? C'est quoi l'idée? C'est de stopper la propagation dans notre pays, faire avancer la recherche sur le virus?
Alors très sincèrement, je vais vous dire, je n'en vois pas trop. Je vous réponds simplement, je ne vois pas trop l'intérêt de savoir quel a été le patient zéro en France, puisque de toute façon on est un foyer secondaire et que notre souci actuellement c'est de diagnostiquer les malades, de les tester et de les soigner. Maintenant, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, tout simplement. C'est vraiment, comme je dis, la recherche fondamentale qui est intéressante pour remonter un peu plus en amont, donc dans les mutations du virus.
Est-ce qu'il est arrivé que la découverte d'un patient zéro renouvelle complètement l'analyse et la connaissance qu'on avait d'un virus ou d'une maladie?
Alors c'est toujours intéressant ça, effectivement, ça permet de voir par exemple que la maladie est une zoonose par exemple. Donc quand on comprend que le patient zéro est un braconnier, comme je l'ai dit, ou que c'est quelqu'un qui a une culture, par exemple en Chine, il y a des cultures où on mange certains animaux particuliers, il y a des ventes d'animaux vivants sur les marchés. Donc cette culture-là est à l'origine, effectivement, et là on comprend d'abord que c'est une zoonose, hein, ce qui est le cas d'ailleurs de toutes les émergences virales depuis le sida. Hein. Le sida, finalement, c'était aussi une zoonose, au début c'était une maladie animale. Et là, je crois que c'est intéressant, ça permet effectivement de découvrir les fameuses mutations virales qui permettent la transmission interhumaine.
Mathieu.
Oui, dans votre livre, Luc Perrineau, Patient Zéro, donc, vous parlez du cas d'une femme, Marie Mellon, surnommée Marie Typhoïde, qui était donc cuisinière à New York au tout début du XXe siècle et qui a contaminé énormément de monde sans avoir été malade elle-même. Donc c'est le cas du malade asymptomatique, hein, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, alors cette histoire, on me l'a beaucoup fait raconter, effectivement, je l'ai racontée parce qu'elle est intéressante. Elle est doublement intéressante parce que le microbiologiste Koch, dont l'équivalent allemand de notre Pasteur à nous, avait dit il était le premier à émettre l'hypothèse qu'il y avait certainement des porteurs sains de ces fameux microbes qu'on redoutait tant, qui nous rendaient malades, la tuberculose et les autres, qu'il y avait certainement des porteurs sains. Mais il ne pouvait pas en faire la preuve. Et cette Marie Malone a été effectivement la première preuve clinique du porteur sain, puisqu'on a découvert qu'effectivement elle a porté le bacille de la typhoïde dans sa vésicule biliaire pendant 30 ans sans jamais avoir le moindre symptôme de la maladie, qui était, comme vous le savez, une maladie très grave, beaucoup plus grave que le coronavirus actuel, bien sûr.
Est-ce que la recherche du patient zéro, alors on a parlé du sida pour remonter jusqu'aux années 20, Mathieu faisait allusion à l'article du Monde qui est passionnant sur l'enquête qui se mène en France, il a été repéré, c'est mentionné dans cette enquête, il y a une hôtesse de l'air d'Air France qui présentait tous les symptômes dès le mois de novembre dernier. L'enquête permet souvent de remonter bien avant le moment où l'épidémie a été connue du grand public.
Ah bah oui, généralement, bien sûr, ça, toujours même, hein, on reparle par exemple de Gaëtan Dugas, quand on a découvert le sida, le sida existait dans l'espèce humaine et chez les grands singes depuis très longtemps, et on a remonté 60 ans plus loin, hein, que la jusqu'à le moment où on a diagnostiqué cette nouvelle maladie.
Et ce délai-là est classique, ce délai de remonter jusqu'à 60 ans en arrière?
Alors non, il faut comprendre le mode de transmission, et c'est là où c'est intéressant. Si c'est une transmission par voie sanguine ou sexuelle comme le sida, la chaîne de contamination va être très très lente et très longue, parce que c'est pas évident. Alors que si c'est une contamination par contact cutané ou par respiration, comme le cas du coronavirus, évidemment, l'épidémie va aller beaucoup plus vite, donc on peut supposer que le premier cas n'est pas si loin que ça dans le temps. Hein. Il ne sera pas de 70 ans. On va peut-être trouver qu'il a eu lieu il y a 2 ans, 1 an ou 6 mois, je ne sais pas combien. Hein. Oui. Mais donc là, c'est parce que la transmission n'est pas la même. Il faut bien comprendre que c'est le mode de transmission qui fait la vitesse d'une épidémie.
Céline, au standard de France Inter.
Bonjour.
Nous vous écoutons, Céline. Vous nous appelez du Puy-en-Velay.
Oui, alors moi je suis un petit peu effarée d'entendre qu'on puisse aller chercher ce genre de questions. Je me dis à quoi ça va servir, parce que de toute façon maintenant il y a des milliers de gens qui sont impactés et remonter exactement la chaîne, si ce n'est amener une culpabilité terrible sur la personne. En tout cas je pense même à cette hôtesse de l'air, ça doit être complètement incroyable. Et est-ce qu'on va aller chercher comme ça sur la responsabilité par exemple des gens qui font des traitements qui vont polluer les champs et qui amènent une pollution énorme? Est-ce qu'on va chercher aussi cette responsabilité qui peut être plus facile à trouver qu'aujourd'hui celle du premier porteur?
Voilà, ce qui est encore un autre sujet. D'où on rappelle, hein, Luc Perrino, ce que vous disiez tout à l'heure, d'où la nécessité de distinguer enquête épidémiologique et enquête sur les personnes.
Voilà, je pense que comme je suis d'accord avec ce que dit cette dame, dans un foyer secondaire, comme je l'ai dit au début, ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour la recherche fondamentale, il faut aller effectivement rechercher toujours plus loin, mais là, généralement, c'est fait de façon anonyme, et j'allais dire, en dehors des médias, hein, c'est la vraie recherche fondamentale, celle qui finalement ne passe pas par les médias, hein, tout simplement. Hein.
Mathieu.
Oui, il faut se rappeler quand même qu'il y a des pandémies qui sont toujours en cours, et c'est le cas justement du VIH-Sida qui a débuté dans les années 80. Pourquoi, Luc Perrino, est-ce qu'il est plus difficile de stopper cette épidémie-là par rapport à d'autres ?
Mais c'est un virus qui a trouvé une stratégie assez surprenante. Hein. Il s'est dissimulé dans notre système immunitaire. Hein. C'est un peu le voleur dans le commissariat de police, hein, qui se cache dans le commissariat de police. Hein. Donc il est là et il attend tranquillement une occasion qui se présente, c'est-à-dire en gros soit une blessure, soit un rapport sexuel, pour se diffuser et puis atteindre d'autres personnes, puisque un virus est un être vivant et comme tous les êtres vivants, il répond aux lois de l'évolution, c'est-à-dire qu'il cherche à se diffuser. Mais comme lui, il a un moyen de diffusion qui n'est pas pratique, hein, beaucoup moins pratique que la transmission respiratoire, et bien il est obligé d'attendre, et c'est pour ça que ça prend plus de temps. Et il est probable que, à moins d'interdire définitivement tous les rapports sexuels, le sida va encore durer quelques siècles.
Mathieu, vous avez une autre question.
Oui, mais dans votre livre, justement, vous étendez cette notion de patient zéro à tous les domaines de la médecine. Et alors, il y a des patients zéro dans toutes les disciplines et certains extrêmement célèbres. Joseph Meister, cet Alsacien qui était le premier à être vacciné contre la rage par Louis Pasteur, est aussi un patient zéro.
Voilà, alors comme vous l'avez dit au début, et je vous en remercie, ça n'est pas du tout un livre opportuniste, il a été fini d'écrire il y a plus d'un an, et il a été programmé par mon éditeur il y a plus de 6 mois, mais c'est vrai que j'ai étendu, j'allais dire un peu abusivement, mais de façon très explicite, le terme de patient zéro à tous les patients qui ont permis de faire une nouvelle théorie médicale, de faire un nouveau diagnostic, ou au contraire de détruire une théorie médicale, ou de supprimer un diagnostic, donc c'est tous les nouveaux cas. Et là, vous parlez du cas d'un patient qui a été le premier à permettre à Pasteur de passer de l'expérimentation canine, donc sur le chien, à l'expérimentation humaine pour son vaccin contre la rage. Et vous savez qu'il a été très célèbre, hein. Il a permis à Pasteur de fonder son institut et d'avoir beaucoup de dons et de subventions venues du monde entier.
Il y a d'autres patients zéro que vous mettez en exergue dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Alors, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement, un nouveau diagnostic, ça n'est pas seulement une maladie, c'est la rencontre entre des nouvelles techniques souvent, et à une époque donnée, c'est nos progrès qui nous permettent de faire de nouveaux diagnostics, et peut-être que nos progrès nous font faire abusivement certains diagnostics. Je m'explique sur un cas très intéressant qui est le cas de la maladie d'Alzheimer. Avant, on parlait de démence sénile, et ben parce qu'on savait que les vieux, ils perdaient la mémoire, ils étaient un peu désorientés, souvent, enfin un certain pourcentage de personnes, et c'était la vie, hein, c'était le cours normal de la vie, on va dire, on se posait pas d'autres questions. Et puis un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Alzheimer, qui qui a fait la coloration argentique des neurones. Et cette coloration argentique, ben, il a vu que chez une de ses patientes qui était très démente, les neurones se coloraient, avaient des neurofibres. Bon, je passe sur les détails. Mais en réalité, s'il n'y avait pas eu cette coloration argentique, on n'aurait pas changé, il n'y aurait pas eu de nouvelle maladie. Et on découvre aujourd'hui que effectivement, on voit aussi ces neurofibrilles et cette coloration bizarre chez toutes les personnes qui vieillissent, même si elles n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez qu'on remet en cause un diagnostic même. Peut-être un jour, ce diagnostic va être tout simplement supprimé, c'est possible, avec de nouvelles connaissances.
Allez Mathieu, il nous reste moins d'une minute, une dernière question.
Il y a aussi le patient zéro de l'anesthésie générale avec du gaz hilarant, si on peut citer encore un exemple très rapide. C'est assez amusant ça quand même, Luc Perrineau.
Celui-là, il est très connu, je crois. Enfin, je ne suis pas le premier à l'avoir raconté. J'ai raconté beaucoup d'histoires qui n'étaient pas connues, mais celui-là, il est très connu. Effectivement, c'était sur le gaz hilarant. Ça servait que pour les forains, en fait, qui s'en amusaient, qui faisaient rire le public en donnant du gaz hilarant à un cobaye, quoi. Et puis, il y en a un qui s'est grièvement blessé. Il y avait un observateur avisé qui a vu qu'il n'avait pas mal suite à cette grave blessure. Et c'était un dentiste, d'ailleurs, cet observateur avisé, qui a dit « Oula, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant là pour arracher les dents de mes patients, je vais peut-être utiliser ce gaz hilarant. »
Merci Luc Perrineau d'avoir répondu à nos questions. On a compris que votre livre n'était pas du tout un livre opportuniste. Cela dit, je pose la question parce que pour les gens qui nous écoutent, cette émission leur a peut-être donné envie de le lire. Est-ce qu'on le trouve en version électronique en ce moment ?
Voilà, merci beaucoup. Effectivement, il n'est pas du tout opportuniste, mais il est tombé à un moment un peu bizarre. Avec le
coronavirus. Et on le trouve en version électronique ?
Je pense, oui, bien sûr. Oui, la découverte
est un éditeur
qui
est moderne.
Voilà.
Patient zéro aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup. Merci Mathieu.